11h03 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Et quand on est au début de l'heure de 11h, ce que ça veut dire, c'est que c'est l'heure d'accueillir la pétillante Audrey Pinchot en studio.
T'es bien fin un matin, qu'est-ce qui se passe avec toi?
Ben, fallait juste me reprendre pour les derniers jours.
Ouais, hein, ça a été plus rough.
Ça commençait souvent rough, fait que...
En plus, c'est tellement des affaires qui se disent pas. Il me semble que t'as l'air fatigué. Il me semble que t'as l'air scrap un matin, voyons!
Ben là... On est honnête, on ne l'est pas.
T'as raison.
Aujourd'hui,
t'as vraiment raison.
Audrey, t'as l'air pétillante comme un 7-Up que tu viens d'ouvrir.
Wow! Ben écoute, je suis de bonne humeur, il fait beau, ça doit aider. Hein. Souvent, la météo, à cette année, ça joue, là.
Ouais, puis la neige s'en vient, la première neige.
Hey, là, j'ai hâte, là.
Moi aussi, un petit peu. Puis là, mais les nuits, par contre, plus frisquettes, un petit peu, là. Tu sais, je voyais, je pense que c'est ce soir et cette nuit, là, moins 5 degrés. Fait que moi, quand je me lève à 3 heures du matin, puis je prends ma petite
ça
marche,
réveille.
Là, ça va commencer à me réveiller. Ça se peut, je commence à mettre mes combines de mon oncle.
Mais, ce que je trouve le fun, c'est que ça... Est-ce que tu vas... Peut-être que tu comprendras pas ce que je veux dire, mais je trouve qu'à ce temps-ci de l'année, ça sent frais. Comprends-tu ce que je veux dire? T'sais, ça sent bon, ça sent frais, ça sent... Moi, j'aime quand tu fais froid.
Okay.
J'ai l'impression que c'est... Tu comprends pas ce que je veux dire? Je suis sûr que les auditeurs vont comprendre.
Oh,
88-971-1021. L'été, là, quand tu fais 30, là, ça sent rien. Tu veux dire, tu respires, t'as juste chaud, stannant, c'est plate. On dirait que quand l'automne arrive, quand il y a les premières neiges, les températures un peu plus froides, ça sent frais.
De quoi on parle dans l'open mic aujourd'hui, Audrey?
Ah, t'es plate! Aujourd'hui, on a un sujet que... Ben, je dis un sujet, plein de sujets,
ben.
En fait. On va parler du monde du travail. Il y a une référence dans ce temps-là, c'est Annie Boilard qui est présidente de Annie RH. On lui a déjà parlé plusieurs fois à Boulevard 102.1. Puis là, c'est comme un retour ce matin parce que Annie a décidé de prendre les sujets les plus populaires qu'elle a fait au travers les années dans différentes chroniques, différentes questions qu'elle se fait poser, puis de créer un livre avec ça. Le livre s'appelle « Le problème, c'est le boss, enfin, je pense ». C'est 40 chapitres qui abordent 40 situations frustrantes au travail. Je trouve ça super intelligent, super cocasse. Je suis allée piger dans le tas des matières, puis on va s'amuser ce matin.
Y a-tu un chapitre sur la collègue weird qui trouve que ça sent bon quand il fait un peu froid? Puis que...
Pas particulièrement, okay. Mais il y a pas mal de chapitres sur les collègues. Annie, bon matin!
Bonjour Audrey!
Dis-moi Annie, que tu comprends ce que je veux dire quand je dis que ça sent frais.
Ah oui! Non seulement ça sent frais, mais beaucoup d'études sur le monde du travail disent qu'on gagne à mettre cet air riche en aérobiome dans nos environnements professionnels. Alors,
bon.
Ça pourrait être une toute autre conversation, mais il y a beaucoup de science derrière.
Je savais que je disais pas n'importe quoi.
Ouais, c'est beau.
Annie, on va faire le tour de quelques sujets qui reviennent beaucoup quand on parle de milieu de travail que tu as mis dans ton livre. Mais premièrement, félicitations pour l'écriture. J'ai le goût de te demander qu'est-ce qui t'a envie de mettre tout ça sur papier. C'était quoi le but? Pourquoi écrire un livre là-dessus?
Oui, bien d'abord merci. Puis j'ai envie de nous dire, il y a un petit peu de nous autres là-dedans, de nous tous. À la fois, nos conversations que nous avons eues, Audrey, il y a des idées qui viennent de toi dans le livre, tu es citée dans le livre. Puis aussi des réactions que les auditeurs ont faites lorsque nous avions des conversations ensemble. Ils ont posé des questions, ils ont réagi. Tout ça a inspiré plusieurs chapitres du livre. Donc, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Là, tu me disais, qu'est-ce qui a inspiré l'idée? C'est que je savais une chose, je savais que je n'allais pas faire un livre où j'allais... excuse-moi, je pense que tu avais perdu. Donc, où j'allais parler pour les gestionnaires, comment bien gérer une équipe ou comment faire preuve de leadership. Ça, les bibliothèques sont pleines de ça, Audrey. Là, on en a tous vu plein. Moi, je voulais écrire un livre pour les employés. Hein. Moi, je sais là, que les employés, souvent, ils ont des choses qui les frustrent au travail. Puis la bonne idée, tu sais, de dire à quelqu'un, ben là, lâche ta job puis trouve-en une autre. C'est pas toujours réaliste, c'est pas toujours possible. Même parfois, les employés, c'est pas ça qu'ils veulent lâcher leur job, ils veulent régler la problématique. Fait que c'est pour ça que j'ai écrit un livre pour les employés sur les irritants du quotidien. C'est ça la pensée derrière.
Qu'est-ce qui frustre les employés en 2025? Là? Qu'est-ce que tu entends le plus?
Bon, il y a beaucoup de choses, hein? 330 pages, 40 chapitres, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui frustrent les gens. Mais je nous donne des grands classiques, OK? Une des choses, Audrey, c'est mon collègue à côté de moi, qui est payé le même salaire que moi, ne fait pas sa job. Parfois, il faut que moi, j'aille pallier son travail. Je l'ai dit à mon boss, puis mon boss fait rien. Fait que là, il y a comme quelqu'un, on trouve que c'est injuste, il y a quelqu'un qui fait pas sa job, puis je trouve que c'est injuste. Ça, c'est un grand classique. Je t'en donne un autre, Audrey. Mon boss ne m'écoute pas. Tu sais, il y a quelque chose qui va pas au travail. La solution, elle m'apparaît facile, accessible. Je l'ai dit à mon boss, puis mon boss dort dessus. Il fait rien. Fait que là, il n'y a rien qui avance, mais là, la situation frustrante, elle, elle perdure, puis c'est moi qui dois faire face tout le temps. Après ça, cette affaire-là qui revient. Ou un autre, puis là, je pourrais t'en donner longtemps, mais un autre qui est simple, puis que je trouve que la littérature n'est pas très loquace sur ce sujet-là, c'est mon boss a des préférés dans l'équipe, comme des amis, tu sais.
Ouais.
Puis moi, je ne fais pas partie de la petite clique. Mais tu sais, j'ai somme toute une bonne relation avec mon boss, là. Je ne te dis pas qu'on ne s'entend pas bien, mais je sais qu'il y a comme des préférés. Je sais qu'il y a des gens qui savent les choses avant les autres. Puis ça me dérange. J'ai l'impression que ce n'est pas juste. Puis je ne sais pas comment faire ça parce que pas pour aller voir mon boss puis dire « J'aimerais ça que tu m'aides, que tu m'aimes autant que tu aimes les autres. » Tu sais, c'est comme ça se fait pas. Fait que comment je navigue là-dedans? Ça, là, ça en est des exemples de situations frustrantes.
Le titre du livre qui est le mot « boss » dedans, c'est pas un hasard, là.
Ben oui, c'est ça. C'est pas un hasard. T'sais, le problème, c'est le boss. Mais il y a aussi le « enfin, je pense ».
C'est ça.
Puis c'est intéressant, tu sais, le boss, pourquoi c'est pas le boss ou la boss? Parce que, ben d'abord, on voulait pas insuffler que tous les patrons étaient nécessairement masculins. C'est pas le cas, évidemment. Puis on voulait pas non plus que les patronnes soient identifiées comme négatives. Fait que c'est pour ça que ça finit par « le problème, c'est le boss ».
C'est le boss. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça nous parle un peu plus même dans la façon de le dire. Tu parles de relations avec le patron, puis dans les chapitres que t'as... ça revient, ça. La relation, justement. Le fait qu'il y a des boss aujourd'hui qui sont amis. Je me suis déjà retrouvée dans une situation comme ça, puis c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas une bonne patronne. J'étais trop proche de mes employés, puis quand il y avait des problèmes, ça menait à des soucis, puis il y a des soucis dans la gang aussi. Quelle relation on devrait avoir avec notre patron? Parce qu'on dirait qu'en 2025, on priorise l'énergie dans une gang, on veut que tout le monde s'entende bien, mais ironiquement, ça mène à des problèmes quand il y a du sérieux à gérer.
Audrey, là, ce que tu nommes, c'est tellement ça. Mais je le souligne, tu sais, tu dis que je n'étais pas une bonne boss. Moi, je te dirais, si tu en as conscience, si tu le sais, c'est déjà mieux que beaucoup de monde, tu sais. Mais effectivement. Puis là, les patrons, ils disent là-dessus, bien d'abord, les patrons sont un peu mal pris parce que sur toutes les plateformes, on leur dit, il faut que tu sois proche de ton monde, il faut que tu exerces un leadership de proximité. Fait que là, les boss, ils ont l'impression qu'on fait ce qu'on leur demande. Mais là, il arrive, l'humain est l'humain, puis il y a des meilleures affinités qui se développent avec certaines personnes, puis pas avec d'autres. Puis là, après, les patrons vont dire, « Oui, mais ça n'a pas d'incidence sur mes décisions de gestion. T'sais, je ne vais pas donner les meilleures plages d'horaire de vacances à mes amis pour le temps des fêtes. Là, ça n'a pas d'incidence sur mes décisions. » Puis ça, Audrey, là, si on peut mettre les lumières là-dessus, les flashs, solliciter les auditeurs pour qu'ils nous aident pour passer le message. Le point, c'est le suivant. Boss, même si tu me dis que ça n'a pas d'incidence sur tes décisions, c'est pas grave, même si tu as raison. Voici l'histoire. C'est une question de perception.
Ouais, c'est ça.
C'est pas grave ce que tu fais. Ce qui est important, c'est ce que les employés pensent que tu fais.
Ouais.
Et si les employés pensent que tu donnes des meilleurs horaires, des meilleurs outils, des meilleurs clients, des meilleurs à des employés parce que tu as une meilleure relation avec eux, ils ont raison d'être frustrés. Fait que boss, si tu veux prendre ton salaire de boss, mets tes culottes de patron. Puis, sois équitable dans ton temps, même ton temps informel que tu partages avec tes équipes. Mais bravo, Audrey, tu sais, toi, tu as dit spontanément, moi, je le sentais, je le savais, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Fait que déjà, tu sais, il y a cette conscience-là. Fait que bravo.
Ah, mais moi, je salue les patrons qui sont capables de naviguer là-dedans parce que, honnêtement, moi, ça n'a pas fait pour moi. J'ai réalisé que si je me retrouvais en gestion à nouveau, il allait falloir que je garde un mur un peu entre ma relation avec les employés parce que je suis trop friendly. Je ne suis pas faite pour ça. C'est tout ou c'est rien, tu sais. Dans les chapitres, il y en a un dans la gang qui tape ses nerfs à tout le monde. Boss, peux-tu faire quelque chose? Ça arrive souvent, ça. Où tout le monde a l'impression qu'il y a une pomme pourrite dans l'équipe, là, puis que ça irait vraiment mieux sans cette personne-là, mais le patron, Christy, il a la garde, la pomme pourrite.
Ben, exactement. Fait que, patron, cette personne-là tombe sur les nerfs de tout le monde. Ça peut être pour différentes raisons. Tu sais, Audrey, je sais pas si t'as déjà connu ça, mais tu sais, le collègue qui est éternellement fatigué. T'sais, tu rentres le lundi matin, comment ça va? Oh,
fatigué. Tout le temps brûlé.
Il est tout le temps brûlé, tu sais. Puis là... Au début, c'est comme une façon de s'exprimer, puis des fois, c'est peut-être un petit peu une façon simple d'avoir des conversations, puis aussi une façon d'attirer l'attention. Mais là, les collègues finissent par se demander, « Ouais, mais s'il est fatigué tant que ça, là... » Tu sais, par exemple, mon collègue devait faire une partie du projet. Là, ce que je lui demande, est-ce que je fais un suivi? Est-ce que je devrais m'en charger? Fait que là, les gens sont mal à l'aise parce qu'ils veulent pas en mettre sur les épaules d'un collègue qui semblerait peut-être qu'il va pas bien. mais le boss ne fait rien, tu sais. Puis il n'y a personne qui s'interroge à savoir, c'est-tu une façon de s'exprimer, de dire je suis fatigué, ou il y a anguille sous roche, puis la personne, elle va vraiment pas bien. Alors ça, effectivement, là, t'as raison, puis c'est au patron de faire des démarches, puis parfois les équipes aussi peuvent faire des choses. Puis, tu sais, il y a des questions à poser pour aller comprendre qu'est-ce que tu veux me dire, collègue, quand tu me dis ça. Mais tu sais, la pomme pourrie, bon, des gens fatigués, c'est pas une pomme pourrie, mais des fois, c'est ça qui tombe sur les nerfs des gens. Il y a l'autre qui va avec, c'est les gens qui sont toujours dans le jus. Tu sais, tu veux demander quelque chose à ton collègue, mais il est tout le temps débordé. Fait que là, boss, allume, tu sais. Je comprends qu'il y a des gens qui sont occupés à l'occasion, mais là, 365 jours par année, il y a peut-être quelque chose qui va moins bien.
Ouais.
L'autre élément dans la pomme pourrie, c'est le collègue qui est incompétent. Le collègue incompétent qui fait pas son travail. Mm. Puis ça, des fois, c'est une longue réflexion parce que il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Puis il faut accepter aussi des fois comme employé qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. Tu sais, Audrey, tu as été patronne, tu le disais tantôt. Des fois, les patrons initient des démarches avec des employés en sous-performance, soit pour recadrer la performance ou parfois c'est même pour avancer sur des mesures disciplinaires qui pourraient mettre fin au lien d'emploi. Mais ça, c'est confidentiel. Fait que le patron le sait, l'employé qui est dans l'étau un peu serré le sait, mais les collègues, eux, ne le voient pas. Puis des fois, ça cause des énormes frustrations et des incompréhensions. Pourquoi le boss fait rien? Puis on réalise pas que le boss fait peut-être quelque chose, mais il a pas le droit de nous le dire. Puis l'employé, là, tu sais, le Paul, la pomme pourrie, comme tu disais tantôt, Paul, ça veut pas dire qu'il va se promener partout pour raconter la vraie histoire à tout le monde. Des fois, il va se garder une petite gêne. Mais il va raconter l'histoire qui lui plaît bien de raconter. Fait que ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est peut-être en train de se passer que je ne vois pas. Et ultimement, si vraiment rien ne se fait, puis que le patron veut vraiment supporter l'employé qui est incompétent, ben comment je me protège? Parce que là, Audrey, ça devient la décision du boss, ça devient plus ma responsabilité de collègue. Même si je suis syndiquée dans la même unité d'accréditation que l'employé, il va falloir que je me protège. Je ne pourrai pas toujours pallier le travail de la personne qui ne fait pas sa job parce que le patron ne le verra jamais. Personne ne fera jamais rien. Mais moi, je vais y laisser mon énergie puis ma santé.
Bien, c'est ça l'affaire. C'est que souvent, quand je parle de pommes pourries, ou je devrais dire la framboise. Tu sais, quand tu vas à l'épicerie, il y a une framboise pourrie dans le pot. Ça prend une journée que toutes les autres sont pleines de mousse blanche, là. J'ai comme l'impression que malheureusement, si le boss décide de garder cet employé-là, c'est plate à dire, mais généralement, ça va affecter l'équipe au complet. Fait que c'est quand même dur à gérer. Fait que ça, tu le traites dans ton livre.
Eh oui, si on traite de ça. Puis on dit aux gens, tu sais, d'abord, donner une chance. T'sais, on a un système légal qui fait que ça va prendre du temps pour recadrer la situation. Fait que des fois, il faut faire preuve d'un peu d'indulgence. Mais si vraiment le temps s'écoule puis rien ne se fait, faut se protéger. Fait que comment je me protège, puis il faut redonner la responsabilité au boss.
J'ai envie qu'on parle de négociation. C'est toujours un sujet qui fait énormément jaser parce que et qu'il y a du monde qui sont bons avec ça, puis et qu'il y a du monde qui sont pourris.
Moi, ma technique de négociation, c'est je dis oui.
Ben, puis écoute, moi, je deviens sensible, je deviens émotive. C'est vraiment pourri. La première offre salariale de mon boss, est-ce que je l'accepte ou je la négocie?
C'est une excellente question, ça, Audrey. Hein? Les statistiques sont à l'effet qu'en moyenne, les gens vont accepter une première offre salariale. Mais ceux qui la négocient, plus de 60 % d'entre eux vont obtenir des meilleures conditions de travail.
Ça en dit long.
Fait que c'est intéressant, la première offre salariale. Il y a des façons, il y a un ton pour à la fois ouvrir la discussion, pas nécessairement accepter la première offre, mais ne pas prendre le risque de perdre l'offre tout court, parce qu'il faut faire attention aussi. L'enjeu, souvent dans les conditions, quand on dit on peut aller chercher de meilleures conditions, parfois c'est salarial, mais il faut aussi considérer des fois c'est autre chose, comme plus de télétravail ou des dépenses qui vont être admissibles ou plus de vacances, par exemple. C'est pas toujours des éléments qui sont monétaires, mais c'est intéressant d'ouvrir la porte avec respect, prudence, en demandant à l'employeur, est-ce que c'est la meilleure offre? Est-ce que vous avez de la flexibilité par rapport à... Puis... statistiquement, ça vaut la peine de le faire. Puis, tu sais, moi, Audrey, depuis le temps qu'on se placote, tu le sais, je suis en ressources humaines. Nous, en ressources humaines, moi, je le vois sur le terrain, les gens acceptent beaucoup la première offre. Puis, des fois, on avait un petit peu de marge de manœuvre qu'on n'a pas utilisée. Fait qu'effectivement, c'est intéressant de se poser cette question-là.
l'importance de la transparence salariale. Parce que souvent, on dirait que dans des contrats que tu vas signer au travail, on demande d'être... j'ai pas le mot qui me vient, là. On demande de pas parler de salaire, en gros. On demande une confidentialité, voilà. Mais on va se le dire, les employés se parlent. C'est pas une mauvaise chose, je pense. Mais comment c'est traité, oui. Ça? Je pense que les boss sont pas innocents. Les boss le savent, là.
Il faut que les patrons le sachent. Audrey, tu as raison. On est en 2025 et les employés vont se parler de leur salaire. Et les statistiques sont assez rigolotes quand on regarde, par exemple, les jeunes générations qui sont près de 80% à dire « c'est normal de parler de son salaire ». Je vois même pas pourquoi je me garderais une petite gêne par rapport à ça. Alors, certes, il y a les employés, comme tu disais, Audrey, qui sont couverts par des ententes de confidentialité qui, eux, ne peuvent pas. Mais en général, ce sont de grandes exceptions. La majorité des employés, soit sont syndiqués, couverts par une convention collective et tout le monde connaît les échelons salariales, donc là, il n'y a pas de surprise, ou encore, il y a un contrat d'emploi individuel et là, il n'y a pas de telle clause. Et là, c'est ça l'histoire. Avant, les gestionnaires, tu sais, les gens ne parlaient pas de leur salaire, mais maintenant, tout le monde partage leurs informations. Et ça donne droit à de nouveaux types de conversations. Mmh. Tu sais, par exemple, les patrons étaient bien habitués. Avant, il y avait des conversations qui ressemblaient à « Boss, je sais que Paul est payé, par exemple, plus que moi. Je trouve que c'est pas juste. Je voudrais qu'on augmente mon salaire. » Bon, ça, c'est un bon vieux classique. Mais en 2025, ce qu'on voit comme conversation, c'est aussi « Boss, je sais que je gagne plus que Paul et je trouve que c'est pas juste. Je suis inconfortable avec ça. » Je souhaite qu'on augmente le salaire de Paul.
Ah ouais.
Ça, c'est des nouvelles conversations dans les bureaux de travail. Puis souvent, les patrons sont pris de surprise.
Ben oui.
Ils ne s'attendaient pas à ça. Oui. Puis, mais il faut en parler. Puis il faut que les patrons prennent pour acquis que les gens vont parler de leur salaire entre eux. Puis moi, je trouve que c'est bien, Audrey. C'est bien parce que, je dis Audrey, mais toute ton équipe, c'est que ça force les patrons à être plus objectifs, transparents. Tu sais, boss, il faut que tu saches. Qu'est-ce qui vaut quoi? Puis qu'est-ce qui va me permettre, moi, comme employé, d'accroître mon salaire? C'est quoi les indicateurs que je dois atteindre? C'est quoi que je dois faire? Ça force à avoir des communications plus transparentes. Puis ça permet aux employés qui souhaitent déployer des efforts pour soit acquérir de nouvelles connaissances ou faire des se rendre disponibles ou peu importe. Mais ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire. C'est plus accessible quand ils savent c'est quoi les règles du jeu.
Des fois, on a l'impression que justement, pour être bien payé ou quand on a un bon salaire, on se doit d'en faire plus. Hein? Et il y a un chapitre dans ton livre qui s'intitule « Boss, peux-tu arrêter de m'achaler avec la job le soir puis les fins de semaine? » Le fameux droit à la déconnexion, on en parle tellement. Je pense qu'il y a des milieux où c'est pas mal plus facile que d'autres, de base. Mais comment on navigue à travers ça? Parce que c'est dur de faire aller ses droits. Tu sais, je te donne l'exemple, Annie. Nous, dans notre job, on travaille en réalité un peu 24/7 parce que tout ce qu'on vit devient un peu un sujet. Faut avoir vu la game d'hier, faut avoir vu telle série qui était à mode, faut être allé à tel événement. T'sais, on est un peu toujours dans le travail malgré nous. Puis on travaille beaucoup avec le téléphone, le messenger, c'est au bout des doigts. Fait que c'est dur de mettre des limites. Mais une personne qui voudrait en mettre aurait le droit. Comment on navigue?
Ouais, et ça, Audrey, là, juste ça, ça serait tellement une grande conversation parce que c'est pas juste pour l'employé, là. Là, ça devient aussi pour l'employeur. Parce qu'on sait que les absences pour des fins de santé mentale s'accroît au Québec. Et on sait aussi, notamment avec des données américaines, que les employés qui ont une rémunération annuelle, pas à l'heure, mais annuelle, statistiquement, les journées de travail s'allongent présentement. Puis ça devient une réelle préoccupation. Alors, tout le monde gagne à parler de déconnexion. Présentement, souvent, c'est les employeurs qui vont initier la discussion. C'est-à-dire que les gestionnaires vont avoir une conversation d'équipe. « Hey, nous, comment on veut définir ça, la déconnexion pour nous? » Et une conversation individuelle avec les gens. Puis la marche à suivre au début, c'est de savoir, bien, c'est quoi, nous, nos heures d'ouverture? C'est quoi les heures où on est disponible? Puis c'est quoi les heures où on est indisponible pour le travail? Puis quand ça, c'est bien clarifié, évidemment, il y aura toujours des cas d'urgence, mais quand ça, c'est clarifié, déjà, ça l'aide. Et ça l'aide tout le monde. Puis là, tu sais, Audrey, je parle des cas d'urgence, là. Mais tu sais, le boss qui se dit, « Oh, j'ai eu une idée samedi matin, j'ai eu peur de l'oublier, fait qu'il t'a envoyé un courriel. »
Ouais.
C'est pas ça, une urgence. On s'entend, il faut la définir, c'est quoi une urgence. Typiquement, une urgence, c'est que ça l'implique soit la qualité du service qui est offert à des clients, la relation d'employé, là, ça concerne un employé ou la dégradation de matériel. Fait, j'insiste sur le mot dégradation de matériel. Tu sais, il y a quelque chose qui est tombé par terre puis qui est brisé. Ouais. Ben là, il est brisé puis il est par terre. Là. Il ne tombera pas plus bas. Là. Est-ce que ça vaut la peine de déranger un employé pour ça? T'sais, si ça ne peut pas se dégrader davantage, c'est pas une urgence.
Puis, mais
alors,
Vas-y.
Excusez, pouvez-vous répéter?
Ah, j'ai juste dit de continuer.
Ah, bon, pardonne-moi. Fait que, donc, c'est ça, c'est important d'en parler. Puis la responsabilité, certes, les employés peuvent lever la main puis dire « Hey, boss, est-ce qu'on peut se parler de déconnexion? » Mais aussi, surtout, c'est l'employeur qui doit initier la conversation. Nous, au Canada, au Québec, on n'a pas de législation sur le sujet, mais nos voisins en Ontario ont une législation qui oblige les entreprises à avoir cette conversation et de se doter d'une politique. Fait que c'est pour ça, tu sais, nous, on n'en a pas, mais on sent un petit peu de chaleur, là. Tu sais, il faut commencer à s'y intéresser. Puis dans le monde, c'est un très grand sujet de conversation. Fait que, oui, au Québec, il faut avoir ces conversations-là aussi.
Puis en même temps, ce qui est malsain, c'est que, tu sais, je me mets à la place d'un employeur. C'est sûr que je vais préférer l'employé qui a tendance à ne pas l'utiliser, son droit à la connexion, puis qui a tendance à me répondre quand il n'est pas dans ses heures de travail. Puis dans le sens inverse, moi, en tant qu'employé, ben, il y a une certaine pression par rapport à ça. Je me dis, ouais, ben si c'est pas moi qui a fait ce job-là, hors des heures de travail, ben ça va être quelqu'un d'autre. Fait que là, l'autre va être plus le préféré de l'employeur que moi. Il y a un genre de compétition qui se crée. Ça aussi, c'est très toxique.
Oui, puis effectivement. Puis l'idée, c'est de voir, tu sais, il y a des gens que ça les importune pas d'avoir des appels. Puis il y a des gens que ça va les importuner. Puis il y a des gens pour qui, à certains moments, oui, à certains moments, non. Fait que je comprends ce que tu nommes. Tu dis, moi, je vais être désavantagée si j'utilise ce droit à la déconnexion. Là, présentement, c'est pas un droit légal, mais disons un droit moral à la déconnexion par rapport aux autres. Mais c'est pour ça, tantôt, qu'on disait, on va avoir une conversation d'équipe. Fait que là, on va se doter de règles d'équipe. Fait que, tu sais, boss, le samedi matin, quand tu te pognes une bulle au cerveau, là, c'est personne à qui t'écris. T'sais, tu peux écrire ton courriel, mais programme-le. Ni pour celui qui ça dérange pas, ni pour celui à qui ça dérange. Fait que cette idée d'avoir une conversation conjointe, tout le monde ensemble, ça aide à réduire ces biais-là.
Il y a aussi des techniques. T'sais. Nous, ici, ce que je vois beaucoup, là, c'est sûr qu'en radio, il y a plusieurs corps de métier dans une station de radio. Là. Mais ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a des départements qui vont se dire, OK, ben quand c'est de la job et c'est urgent, utilise Teams. Moi, il est désactivé les soirs pour la fin de semaine. Fait que je vais voir ça, mais que je rentre demain matin, puis aucune chance que ça me dérange. Si c'est urgent, ben texte-moi ou utilise Messenger. Il y en a que ça va être avec le courriel. Moi, mes courriels là, de job la fin de semaine, j'y regarde pas.
C'est vrai?
Fait que, ben, écoute, ça va arriver des fois quand j'ai rien à faire que par la petite pression, j'ai le FOMO, le Fear of Missing Out.
Moi, c'est
là.
Que j'ai une notification, fait que
ben, moi,
c'est
j'ai
sûr
éteint.
Que... Ouais.
Mais tu vois, sont accessibles, mais j'ai les éteint. Je me dis, si c'est urgent, on va m'appeler ou on va me texter, on va m'envoyer un messenger. Tu sais, j'essaie de faire une ligne entre les différentes plateformes. Il y en a qui vont faire ça pour s'aider, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, il faut que tu te jases parce qu'il y a personne qui fait de la même manière.
Oui. Puis Audrey, c'est le fun parce que derrière ton témoignage, il y a toute la responsabilisation de dire, ben moi, j'ai enlevé les notifications, puis moi, je le gère, tu sais, puis je gère mes besoins puis ma santé à moi. Puis ça, je pense que c'est vraiment l'avenir. Il faut être à l'aise de nommer ses limites, puis il faut être à l'aise de s'imposer comme ça des règles à nous-mêmes. Puis c'est ça l'avenir, c'est ça qui te parle là, présentement. Fait que merci de l'incarner, Audrey.
Mais c'est tellement difficile. Hey, Annie, j'ai envie, si tu as envie, je te lance l'invitation, mais il y a tellement, tu sais, je suis en train de regarder la table des matières de ton livre, puis il y a tellement de sujets intéressants, puis ça fait beaucoup réagir sur le Twitch, puis par texto. C'est toujours des conversations qui sont intéressantes, parce que, crime, on le vit tout, hein, je veux dire, on a tout une job, puis on travaille tout. Fait que, si tu veux, je ferais quasiment une partie 2 bientôt, qu'on puisse aller piger dans d'autres sujets, puis éclaircir peut-être d'autres questions que tu traites dans le livre que tu as écrit.
Avec grand plaisir. Toujours un plaisir de placoter ensemble.
Annie,
on le disait...
Vas-y.
Non, je disais, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Tu sais, derrière ça, il y a des idées de discussion, de conversation, puis des auditeurs. Alors oui, je pense que ça va faire très plaisir de mettre ça à l'actualité pour nos auditeurs.
Là, Annie, le livre est disponible où en ce moment? Mettons qu'il y a des gens qui nous écoutent puis ont envie de se le procurer. Là.
Donc, le titre, c'est « Le problème, c'est le boss ». Enfin, je pense, entre parenthèses, il est disponible dans toutes les librairies, souvent Renaud-Bré, très accessible chez Renaud-Bré, en ligne ou en librairie. Mais peu importe, la librairie est proche de chez vous, là, il devrait être disponible, puis il est toujours disponible en ligne.
Génial. Un gros merci encore, Annie. Puis écoute, on s'écrit, puis on recédule ça dans les prochaines semaines.
Avec grand plaisir. Bonne semaine à vous deux.
Bonne journée. Salut. Annie Boilard, qui est présidente de Annie RH, on a fait une couple de chroniques avec elle. On a jasé différents sujets. Puis chaque fois, c'est des sujets qui font placoter, veut pas, parce que...
Ça touche pas mal tout le monde.
Tout le monde, c'est ça. Tu sais, des fois, tu prends un sujet en onde, puis tu te dis, bon, ben ça va peut-être toucher une certaine partie des gens, mais une job, on en a toute une. Puis je regardais la table des matières, puis vous rappelez que c'est 40 chapitres, 40 situations frustrantes au travail. Puis le but, c'est de démystifier, puis de parler à l'employé. Parce que c'est vrai que des livres pour les boss, il y en existe un puis un autre. Mais de savoir comment agir comme employé, c'est un peu plus difficile des fois. Fait que je trouve l'angle vraiment, vraiment intéressant. Comment vous avez trouvé ça? 88-971-1021, puis assurément, on va se faire une partie 2.
Oh oui, merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup à Annie aussi. Au retour, Pascal CV vient faire son petit tour et je vous fais aussi entendre quelques minutes des meilleurs moments de notre entrevue de ce matin avec Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. On parle entre autres des élus à tous les niveaux, à tous les paliers municipal, provincial, fédéral qui sautent la clôture pour passer d'un parti à l'autre. Fait que vous écoutez le Point de Max à Boulevard, puis il est 11h30 minutes, puis on a bien du fun.
Le Point de Max.